Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go anyway.
Donc, Canal Sud. Canal Sud. 92.2 mégaplombe. Et c'est le bébé dinosaure comme tous les dimanches soirs de 21h30 à 23h. Testing 1, 2, 3. Ça va. Les dinosaures roucoulent comme d'habitude. Les dinosaures sont avec vous pour une heure et demie de rock des années 70. Comme toujours sur le 92.2 MHz de Canal Sud ou bien sûr sur www.canalsud.net. Partout dans le monde. Et ce soir, je vais vous faire comme j'étais un peu absent là. Il y a une petite nécro qu'on n'a pas faite.
Ah.
Steve Harley.
Oui.
Bon, c'est pas essentiel. Bon, on va la faire quand même.
Bah, disons que je connais très mal.
Voilà, comme j'ai quelques disques dans le coin et que j'avais même noté des morceaux avant même de savoir qu'il était mort, tu vois. Bon, c'était un signe. Steve Harley vient de casser sa pipe il y a 2 semaines environ. C'était quelqu'un qui avait commencé comme journaliste musical, en fait, et puis qui s'était lancé dans la chanson, et en particulier vers 73, je crois qu'il a sorti l'album de Psycho Modo, accompagné par un groupe qui s'appelait Cockney Rebel, à ne pas confondre avec les Cockney Rejects, qui sont venus plus tard et qui étaient des punks. Hein. Cockney Rebel, c'était pas spécialement rebelle.
C'était une sorte de glam un peu.
Difficile. Alors, glam pour l'époque et pour le style, le look peut-être. Mm. Sinon, c'était un petit peu une sorte de singer-songwriter, hein, on peut dire. Quelqu'un qui aurait voulu être Bowie, je pense, mais qui n'était pas. Hein. Cela dit, il a fait quelques morceaux qui s'écoutaient, un ou deux tubes. Et il avait un certain sens de sa propre promotion, ayant lui-même été journaliste. Il exagérait beaucoup ses propres talents. Hein. Donc on va s'écouter Make Me Smile.
C'était lui qui chroniquait ses propres disques.
Peut-être pas, mais enfin, il mitonnait des réponses aux interviews dont il savait que ça ferait des gros titres en extrayant quelques mots pour que ce soit un peu scandaleux. Donc Make Me Smile, une version live tirée d'un album tardif qui est un double live face to face qui reprend un peu tous ses grands succès. Hein, voilà. J'ai choisi à facilité. Make Me Smile, donc, par Steve Harley. Ah oui. Make Me Autostart, ça serait encore mieux, mais...
You've got it all. You broke every code. All the rebels to the floor. You spoke again. No matter what you say. Only metal. What a bore. Blue eyes. How come you tell so many lies? See me.
Make me smile.
Oh, I'll do what you want. Running wild.
there's nothing left. It's all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a taste, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself you have to hide. George Ford, John Perry, Lindsay Elliott, Duncan McKay, Stuart Elliott, Stuart Calver, Tony Rivers, Joe Partridge, I'm Steve Harley, good night, God bless you.
Bon, alors on va laisser la foule. Hein.
Oui, c'était moi la... j'en veux pas plus hein, personnellement. Je... C'est
bon, je c'était m'adore. La fin de l'album live. Il est... Bon, il a eu quelques tubes comme. Comment s'appelait Sébastien, par exemple.
Oh, c'est. Ouais, de la pop honnête, quoi, mais pas non plus très marquante, je trouve.
Non. Mais les gens se souvenaient encore de lui suffisamment pour faire un long article dans The Guardian.
Bah écoute, apparemment il avait des fans.
Ou alors il a collé les.
Ouais. En fait, c'est peut-être des chants de supporters anglais, en fait, qu'il a mis.
Bien, Steve Harley, donc, qui vient de décéder il y a environ 2 semaines.
Alors, mon fil rouge ce soir, ce sera à nouveau la bande dessinée Underground, qui est sortie il y a quelques temps déjà, chez Glénat, je crois, par Arnaud Le Gueffleck et Nicolas Moog, qui d'ailleurs viennent de sortir, sur le même principe, j'ai l'impression, une BD sur le punk et le rock alternatif français. Ça, ça a l'air pas mal. Arnaud Le Gueffleck, il est musicien, il est auteur, scénariste de bande dessinée, il a un label aussi, et il a sorti plein de disques. Il est d'ailleurs assez passionné par le psychédélisme et puis les trucs zarbi, la musique expérimentale, enfin les trucs un peu curieux. Et Nicolas Moog, c'est le dessinateur, lui, il jouait dans les Verdunes, ou il a collaboré en tout cas avec les Verdunes, je ne sais pas si tu te rappelles de ce groupe qu'on passait souvent à Digit, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc, c'est grâce
c'est
à
sur Verdun, c'est « Ils ne passeront pas
». Avec Monsieur Verdun et Madame Verdun dans le line-up. Mm. Bon, c'est les gars de l'Est. Hein. Donc, cette BD a été consacrée alors, à l'underground, mais enfin, quand même, un peu le haut du panier. Hein. C'est-à-dire que c'est souterrain, mais pour une bonne partie des groupes ou des artistes dont il parle, bon, c'est quand même des gens relativement connus quand on s'intéresse au rock. Alors, après, il n'y a pas que du rock non plus. Il y a pas mal de trucs, pas mal de musiciens. Expérimentaux, musique concrète et compagnie, enfin, les trucs qui m'intéressent moyennement, mais les histoires sont toujours intéressantes. C'est toujours des gens qui ont eu des vies assez, assez intéressantes. Donc la lecture, quand même, vaut le coup, mais après, t'as pas forcément envie d'écouter tous les musiciens en question. Et sinon, dans ce qui pourrait nous intéresser, il y a par exemple Sun Ra, dont on sera obligé de reparler, évidemment, Kevin Coyne. Jonathan Richman, tu vois, c'est l'underground, mais enfin, c'est quand même un personnage relativement oui. installé, quoi.
Il a fini par faire son trou et sortir du souterrain.
Voilà.
Ah, essentiellement depuis le film All About Mary.
Oui. Après, c'est vrai que sa carrière enfin, a continué d'une manière peut-être plus discrète par la suite. Il y a tout un chapitre sur le krautrock avec tous les groupes phares de ce mouvement allemand. Là. Il y a Nico, il y a Captain Beefheart, Kim Foley, Patti Smith, pareil, bon quand même.
Underground, bon. Faut pas déconner quoi.
Voilà, il y a Brigitte Fontaine aussi. Enfin, il y a des gens comme ça. Donc il y a les Cramps, il y a les, je sais plus, pas mal de groupes qui nous intéressent a priori, dont la qualification d'underground peut être discutée. Mais par contre, il y en a d'autres, c'est quand même eux qui nous ont fait découvrir Yaowa 13. Ça, c'est de l'underground, ça. Et donc, on parlera tout à l'heure d'un personnage qui, lui aussi, était quelqu'un qu'on passait, par exemple, à Digit. Mais qu'on n'a, je crois, jamais passé dans les bébés dinosaures, même s'il a eu une partie de sa carrière dans les années 70. Je vous révélerai tout à l'heure de qui il s'agit. Mais là, on va revenir à Sky Saxon, donc, qui faisait partie de la secte... comment c'était déjà The Source. Voilà.
Source.
Secte végétarienne, plutôt, bon, a priori, relativement pacifique. Hein, on n'était pas des fous furieux. Mais avec un gourou très visiblement et de manière tout à fait avouée, porté sur l'amour libre en vogue à l'époque des hippies, quoi. Hein, avec des jeunes filles, si possible.
C'est presque obligatoire quand tu as une secte, c'est un gourou et que le gourou se farcisse toutes les jeunes femmes de la secte. Hein, c'est presque une définition.
Alors, il avait son resto végétarien, mais visiblement, il est bien réussi.
Ça marche
parce
aussi,
que...
d'ailleurs, dans certaines congrégations.
Oui, ça va. À une époque, ça marchait aussi dans les partis politiques, hein, d'une certaine manière. Bon, bref, le mec, il a quand même bien réussi. Je ne sais pas s'il gagnait son pognon uniquement avec... C'était pas avec les ventes de disques, hein, mais avec son resto végétarien. Mais il y a une couverture de disques où tu vois ces musiciens habillés en hommes préhistoriques, Vagnopou, en indien, on va dire, quoi, tu vois, avec des pagnes, des arcs et tout, des flèches. Mais ils sont sur une énorme limousine blanche, sur le capot, devant une grosse baraque et tout, qui était la baraque de Father Yod, le gourou. Bref, donc, c'est Yaowa 13, nous intéressait parce que Sky Saxon, des Seeds, faisait partie de cette secte pendant un certain nombre d'années. et il aurait joué sur certains des disques. Sur certains, c'est précisé, c'est comment dire, de manière visible. Sur d'autres, on suppose qu'il aurait joué sans en être sûr. On reviendra tout à l'heure sur Yahoo 13 quand même. Mais d'abord, un 45 tours tardif des Seeds. Ça m'a permis de chercher un peu ce qu'on fait les Seeds dans les 70s. Mais ce 45 tours est plutôt pas mal. Il est sorti en 70. Il n'y en a pas eu beaucoup de 45 tours des Seeds dans les années 70. Là. C'est un des rares. Et le morceau s'appelle Bad Part of Town.
Qui est aussi le titre d'une compile.
Oui. On retrouve ce morceau. Voilà, et puis d'autres raretés, plus ou moins, des Seeds. Ouais. Donc, 45 tours de 70, des Seeds de Sky Saxon. Bad Part of Town.
Town, les Seeds, donc au début des années 70, ils avaient musclé leur son.
Voilà, ouais, ça rappelle déjà un petit peu le son qu'il y a sur le live de 68, là. Ouais. On sent que ça se muscle et que ça devient de plus en plus psyché, quoi.
Oui, puis enfin, un psyché plus heavy, quoi.
Oui, oui.
Plus de guitare saturée. Ça a toujours été assez psyché, les Seeds, en principe, mais c'était du psyché un petit peu Flower Power, gentil. C'était eux qui faisaient Mr. Farmer. Let me harvest your crop. Ils étaient très intéressés par les plantes.
Oui.
Bon, c'est, eh bien, écoutons.
D'où son attrait pour le The Source, qui, à mon avis, en plus de la nourriture végétarienne, devait utiliser des plantes pour différentes autres activités, enfin, on va dire,
oui.
D'autres usages.
Alors, où en étais-je ? Blues Creation.
Pardon ?
Blues Creation, qui est devenu qui est devenu Creation plus tard, mais pas, c'est pas le Creation anglais, hein. C'est le Creation japonais.
Ouf.
Je crois que c'est les mêmes qui ont fait un album avec Félix Papalardi, mais j'ai pas vérifié. Et en tout cas, c'était un groupe, un des premiers groupes japonais de blues psychédélique, de blues rock, quoi. Et qui ont laissé tomber le fait de faire des reprises de standards pour écrire leurs propres morceaux, en particulier dans leur, ce qui était leur deuxième album en 71, qui a pas mal marqué les esprits, qui s'appelait Demon and Eleven Children. D'où sort ce titre? Alors on a demandé au leader du groupe, il a dit: j'ai aucune idée de qui a pu inventer ce titre bizarro.
Donc il n'y avait peut-être pas que dans les sessions de musique qu'ils étaient barrés, que, quand il a fallu donner un titre au disque aussi. Mais eh bien écoute, je l'avais quelque part sur un ordinateur, mais je n'avais pas assez écouté. C'est un grand moment de déchirade de guitare en tous les coins. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Just I Was Born. Alors c'est pas d'une syntaxe anglaise idéale, mais ils sont japonais, hein, voilà, donc ils ont des excuses. Just I Was Born par Blues Creation, tiré de leur album Demon and Eleven Children. We'll be right back.
happily. Together we were one. Honey, you cut me loose. Now I'm crying. I couldn't believe my eyes that you were gone. Yes, you'll be gone.
Kazuo Takeda, qui était le leader du groupe, qui a écrit les chansons de cet album et qui était guitariste, on sent que, comment dire, il ne mégote pas sur le solo de guitare.
Hein. Ah ça ouais. Mais il y a le moment où c'est doublé là, enfin, ou alors il y a deux solistes.
Il y a deux guitaristes, oui. Ouais. L'autre sera
il y a des duels.
Je vais retrouver ça parce que non,
flamboyant.
J'ai un peu de mal là.
Oui, bon, de toute façon, on va roublier demain.
Koeiryu.
Ah, voilà.
Alors ensuite, le groupe avait été fondé en 69, ils étaient tout jeunes, ils avaient 17 ans. Ils avaient dit on va jouer du blues et ils ont enregistré, paraît-il, 3 mois après la fondation du groupe, un album de reprise de blues américain. Mais après, le batteur est parti, le chanteur est parti, ils ont embauché des nouveaux. Hiromi Osawa qui chantait. Et Takeda s'est lâché, a commencé à écrire ses propres chansons. Et ils ont sorti en août 71 simultanément 2 disques. Celui-ci, qui s'appelle donc Demon and Eleven Children. Et puis une collaboration avec une chanteuse qui s'appelait Maki, qui était une chanteuse de folk japonais, mais qui avait décidé de passer au rock. Et il paraît que ces deux albums sont des, comment dire, comme la fondation du rock japonais.
Mais oh.
Enfin, ça, c'est certains journalistes qui le disent et c'est repris par la page Wikipédia. Je ne peux pas me prononcer, mais on va continuer d'écouter de cet album de Blues Creation parce que tous les morceaux sont un peu du même tonneau, tu vois. C'est quand même quelque chose.
Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que les Japonais, quand ils font un truc, c'est toujours à fond, quoi.
Il y a ça.
Dans la bande dessinée Underground, il s'attache à Merrill Frankhauser, qui est un guitariste, alors d'un autre style quand même que notre ami japonais, mais un grand guitariste quand même de l'histoire du surf et du rock en général, qu'on passait pas mal, je me souviens, à Digit, notamment. Tatan, Benoît étaient des grands fans de Merrill Frankhauser. Alors il s'est fait connaître en Californie avec son groupe The Impact, qui était un groupe surf, et leur morceau Wipeout. Mais c'est pas le... Enfin, Wipeout, c'est devenu un tube par les surfaries. Et certains disent, oui, c'est Merrill Frankhauser qui a écrit la première version, il n'a pas été crédité sur la reprise des surfaries, c'est un scandale et tout. Et c'est ce que dit aussi la BD, d'ailleurs. Alors, j'ai écouté les deux versions, je dis ça pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez savoir Si les Surfaris ont bien volé le Wipeout de Merrill Frankhauser, vous écoutez la version de Merrill Frankhauser, The Impact, puis celle des Surfaris, et moi ce que j'en conclue, c'est que c'est deux morceaux complètement différents en fait. Enfin, je vois pas trop le... Et effectivement, celle des Surfaris est beaucoup plus tubesque, quoi. Mais bon, je vous laisse vérifier sur... Certains fans de Merrill Frankhauser considèrent toujours, encore aujourd'hui, qu'il s'est fait voler ce morceau. De toute façon, c'est vrai qu'il s'est fait arnaquer par son label, par le boss du label. C'était un label qui s'appelait Delphi Records, un truc comme ça. Ils l'ont fait signer un contrat pour $1 et qu'il est privé de tous leurs droits sur tous les morceaux. Donc je crois qu'il a mis plus de 35 ans pour récupérer les droits sur les morceaux de cet album, cet unique album de The Impact. Mais enfin, ça l'a fait connaître un peu. Il a fait un autre groupe, plus ou moins surf, qui s'appelait The Exiles ensuite, avec un mec appelé Jeff Cotton, dont on reparlera. Puis, il a viré Psychédélique. Et c'est là qu'on commence à s'intéresser à lui. Là, on va passer un morceau de HMS Bounty. Enfin, Merrill Frankhauser and HMS Bounty. C'est ça, je crois, le nom complet du groupe. Un album, là aussi, en 68, sans beaucoup de succès, mais avec quelques très bons morceaux, quand même. Dont celui qu'on va s'écouter. Donc, c'est le morceau Lost in the City. L'album s'appelait Things, avec un point d'exclamation. Et c'est paru en 68. C'est donc Merrill Frankhauser and HMS Bounty.
Somebody told me not to go to this place. You smiled, you laughed, you tried to hide. In your eyes I'm a shell of a man. I cried, I cried, in a lie all the time. Here's that Jesus standing over there. Here's that Jesus standing over there. Here's that Jesus.
Donc, Merrill Frankhauser, sans R, voilà. Sans R après le F. J'ai toujours trouvé très difficile de le prononcer correctement son nom, j'ai envie de dire Frankhauser, mais c'est Frankhauser.
Frankhauser. Avec donc son groupe HMS Bounty, qui montre qu'il y avait déjà un certain goût pour le Pacifique, les îles perdues, et ça on en reparlera tout à l'heure.
Eh bien écoute, nous ne nous perdrons pas dans les îles, nous allons passer les Rolling Stones, donc avec leur album It's Only Rock and Roll, qui est je crois le dernier qu'ils aient fait avec Mick Taylor. Parce que c'était après God Said Soup et avant...
Oui, ça doit être ça, oui.
Voilà. Ça a dû sortir en 74. Et le morceau qui ouvrait l'album, qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire, qui s'appelle If You Can't Rock Me. Ça commence très bien, mais ensuite ça se gâte un peu.
Ça s'auto-parodie un peu, là, quelque part. Ça
oui,
tourne en rond.
Bah, ça commence comme un riff de Keith Richards un peu générique. Hein. Voilà. Mais c'est pas désagréable. The Rolling Stones.
If You Can't Rock Me, on imagine que c'est ce que les Rolling Stones devaient entendre. Eh bien, quelqu'un d'autre fera le job, hein, minable. Alors donc, ils essaient de montrer que là, ils le faisaient. Mais...
Ça tire à la ligne un peu. Allez.
Cela dit, c'est peut-être meilleur que la phase 2 de ce disque. Donc, c'est le morceau qui ouvrait It's Only Rock and Roll, l'album. Qui malheureusement n'est pas un album mémorable des Stones, même si le morceau lui-même l'est resté, mais les autres morceaux du disque...
Bah, quand on regarde les titres, oui, bien des années après l'avoir écouté, on n'en garde aucun souvenir, à vrai dire. Pour une bonne partie des morceaux de ce disque. Voilà. Ce qui est rare sur un album des Stones, quand même. Enfin, ce qui était rare sur les albums précédents des Stones. Ouais.
Oui, enfin, God Said Soup...
Oui, c'est vrai que celui-là était. J'ai toujours tendance à inverser les deux. Oui.
Au-delà de Angie et Starfucker.
God Said Soup était avant, en fait. Hein. It's Only Rock'n'Roll, c'est ça?
Oui, God Said
Soup. Oui, j'inverse toujours les deux. Ouais.
It's Only Rock'n'Roll, c'est le dernier album qu'ils aient fait en 1974 avec Mick Taylor.
Et après, c'est le redoutable Black and Blue.
Eh oui, alors celui-là.
Jusqu'à présent, on n'en a pas passé d'extrait. Hein. On se retient.
Mais ils ont fait un tube avec Fool to Cry.
Eh bien écoute, on va écouter une reprise.
Je sais pas qu'il faut le
passer. Une reprise des Stones. Un morceau qui n'est ni sur It's Only Rock'n'Roll, ni sur Black and Blue, ni sur God Said Soup. Que vous allez reconnaître, je pense, assez rapidement par les Lords of Altamont. Sur ce fameux album Lords Take Altamont, tu sais, où ils reprennent des morceaux des groupes qui avaient joué lors de ce festival fameux. On avait parlé. Je pensais que c'était un album récent, mais pas du tout. Il a été réédité en 2022, mais il était déjà sorti en 2014, en fait, sur Gearhead. Il faut savoir que les Lords of Altamont sont toujours actifs. Hein, leur dernier album date de 2023, de l'an dernier.
C'est postérieur à 1980, récent.
Voilà, oui. Bon, 2014, c'était hier. Hein. On s'écoute donc cette reprise des Stones, puisque les Stones évidemment étaient les héros du concert d'Altamont, et je crois qu'il y a trois reprises des Stones sur ce disque, dont Sympathy for the Devil, qu'on a déjà écouté il y a quelques mois.
Oui, je me souviens, c'était en janvier, une version bourrée de guitare.
Excellent. Voilà, et bon, voilà une autre bien musclée aussi.
This is Stefan Ponick, KSAN Radio, San Francisco. The Altamont's tour of the United States is over. They wound it up with a free concert at the Altamont Speedway for more than 300,000 people. There were four births, four deaths, and an awful lot of stuff.
Watch.
ça dépote quand même. C'était donc Live With Me, légèrement transformé, il faut bien l'avouer, par les Lords of Altamont, sur leur album Lords Take Altamont en 2014, une version quasi stoogienne.
Les Stooges, y aurait mis du saxophone.
Et du saxophone de free jazz, oui, évidemment.
Voilà. c'est un peu ce qui manque par rapport à l'original. Où en étions-nous ? Eh bien, écoute, j'avoue que j'étais peu familier avec le nom de Michael D. Albuquerque.
Putain, mais tu connais pas Michael D. Albuquerque ?
Oh, oui, tu vas me résumer sa carrière ?
Mais oui.
Il peut le faire.
Il est né à Albuquerque, peut-être.
Non, je crois que c'était un musicien britannique.
Oh merde.
C'est quelqu'un.
Je confonds.
Ça m'étonnerait que ça soit son vrai nom. Mais c'est quelqu'un qui a été un membre de Electric Light Orchestra. Ce qui est
oh bah alors, oui, bah, comment pas, tu voilà, veux qu'on connaisse des gars pareils ? T'es marrant, toi.
Mais il a fait un album entier. Qui s'appelle We May Be Cattle, But We've All Got Names.
Mm-hmm.
C'était tiré d'un cri du cœur de dames qui attendaient très longtemps, visiblement, dans les salles d'attente d'un hôpital ou un truc comme ça. We May Be Cattle, But We've All Got Names, parce qu'on les appelait numéro 1, 2, 3, ou
mm-hmm.
chose comme ça. Et ce disque bénéficie sur tous ses morceaux de la présence de Holly Holsall.
Ah bah voilà.
Ah bah voilà. Mm. Et alors il vient d'être réédité par comment ça s'appelle, Think Like a Key, ce label drivé par Roger Houdaï. Alors Roger Houdaï, alors je sais pas si on prononce comme ça, son nom s'écrit Houdaï. Donc moi j'ai tendance à le prononcer à la française Houdaï, mais peut-être qu'il prononce Houdaï, je sais pas.
On s'en fout en même temps.
En tout cas, c'est un type qui est le leader du groupe Ex-Norwegian. Ouais, non, tu connaîtras pas, moi non plus. C'est du power pop sans beaucoup de power. Mais par contre, son label fait tout un tas de rééditions assez rigolotes.
Mmh.
Du Pato, parce qu'il est très fan de Pato, donc ça explique tous les disques qui ont quelque chose à voir avec Holly Holsall. Mais aussi ses albums de Mott, sans The Whipple, tu sais. Mais aussi tout un tas de trucs à droite et à gauche. Et puis, c'est là que paraissent aussi les albums actuels de l'ancien leader des Shirts. Bon, tu me diras, les Shirts, bon, ok, bah, d'accord. Mais moi, j'aimais bien à l'époque.
C'est que les Britanniques,
groupe,
tout ça, là.
C'était un groupe qui avait, dont les premiers morceaux sortis étaient sur la compile du CBGB's, mais qui avait plutôt viré power pop fin des années 70. Des punks, enfin, ils étaient avec les punks parce qu'ils jouaient aux CBGB's, mais c'était plutôt une ambiance un peu power pop.
D'accord.
Parallèle à Blondie, si tu veux, mais beaucoup moins connu. Arthur LaMonica a continué de faire des disques de power pop, le tout dernier est pas mal du tout. Donc Think Like a Key, T-L-A-K, est un label tout à fait sortant des sentiers battus et intéressant. Et donc, on va se passer un morceau de cet album qui vient d'être réédité. We may be cattle, but we've all got names, par Michael D. Albuquerque. Avec beaucoup, beaucoup de choses de Holly Holsall qui est là par derrière. Donc, ce morceau-là s'appelle Dribble Dribble. Voilà, il faut peut-être être patient parce qu'au début, on entend plus Michael D. Albuquerque et puis c'est à la fin que la guitare se laisse aller.
Dribble, dribble, it's the way it always will be.
On arrive au solo de guitare, c'est clair que c'est Holy Hole Soul. Le reste du morceau, c'est évidemment peut-être moins prenant. C'était donc Michael D. Albuquerque et ce son premier album solo de 73, We May Be Cattle But We've All Got Names.
Pardon. La partie de batterie était pas mal aussi, là. Ça sautillait dans tous les sens. Hein.
Très funky en un sens.
Et bien, on va retrouver Mary Funkhauser, donc après bon, l'insuccès des HMS Bounty. Hein. Il va retrouver Jeff Cotton, son ancien complice avec qui il avait joué dans les Exiles, hein, un de ses groupes surf. Mais Jeff Cotton, entre-temps, il était passé par le Magic Band de Captain Beefheart. Donc, il paraît qu'il en est ressorti un peu essoré, tu vois. Et donc, il y a une petite vignette dans la bande dessinée, qui, c'est un dialogue imaginaire, hein, bien sûr, entre Meryl Funkhauser et Jeff Cotton, et tu as Meryl qui lui dit « Bah tiens, si on partait habiter à Hawaï, et puis qu'on faisait des morceaux qui parlent d'extraterrestres, et puis du continent perdu, du Pacifique, et Jeff Cotton qui répond « Ah bah voilà, quand même, enfin un projet raisonnable !» Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un groupe appelé Mu, ou Mu, M-U, qui est le nom de ce continent perdu. Enfin, c'est l'équivalent de l'Atlantide, mais dans le Pacifique, quoi. Et ils ont fait un album, et puis, un peu plus tard, ils sont partis à Hawaï, effectivement, sur l'île de Maui, qui est une des îles de Hawaï, pour se rapprocher encore de leur idéal, là, de...
Si mes souvenirs sont bons, Maui doit être entre Hawaï, l'île de Hawaï et Oahu.
Oui, probablement, oui, un peu au sud-ouest. Et donc,
au sud-est.
Ah merde, pardon, tu vois, j'étais pas loin. Et donc, on va s'écouter un extrait de l'album de Mu. Il y en a eu qu'un, si je ne me trompe pas. Il y en a eu un autre qui était enregistré, mais qui n'est jamais sorti. Il n'est pas sorti à l'époque. Il est sorti dans les années 80, mais un peu découpé en tranches sur plusieurs compilations, enfin un truc comme ça. Et ils sont quand même restés ensemble jusqu'en 71 à peu près, jusqu'en 75. Et ils sont séparés. Et Jeff Cotton, je crois, est devenu prédicateur ou quelque chose comme ça. Il a
filé un mauvais coton.
Ça, c'est sûr. Donc, on s'écoute un extrait de cet unique album de Mu. Tranquille, laid back, un peu psyché, un peu planant. Mais avec l'album entier, effectivement, ça laisse une impression un peu mitigée. Mais en isolant quelques morceaux, il y a quand même des choses intéressantes, comme ce morceau appelé Nobody Wants to Shine. Donc en 71, Mu.
Look at the sun and look at the moon, brother, we are one.
ému.
Look at the sun and look at the moon. Oui.
Le morceau s'applique. Nobody wants to shine.
Quand tu pousses la Californie un peu trop loin, pouf, t'arrives à Hawaï.
Ben voilà, c'est ça. Okay. Effectivement, il y a quand même un lien avec The Source, puisque je te rappelle que la secte à laquelle Mireille Foucauseur n'appartenait pas, hein, mais la secte The Source de Father Yod avait déménagé à Hawaï aussi, puisque c'est là-bas qu'il est mort d'un accident de deltaplane. Mm. À peu près la même époque d'ailleurs, vers 73.
Ouais, 75, il me semble.
Ah, peut-être qu'ils sont un peu plus tard, oui. Je sais plus. Il est mort en 75, oui, mais ils avaient déménagé à Hawaï petit peu avant. Oui, oui. Voilà, bref. Donc, ça, c'était le groupe de Mireille Foucauseur qui a sorti qu'un album. Après, il démarra une carrière solo. On s'écoutera un petit dernier morceau tout à l'heure.
Eh bien, on va s'écouter un disque d'Alain Brasse qui reprend un morceau de rock, monsieur, assez connu que vous allez sûrement reconnaître. Ça commence doucement avec des bruits bizarres. Ça peut vous mettre dans l'ambiance.
Ah, c'est bizarre, je reconnais pas. Hein.
Thank you.
donc un morceau des Beatles. Alors, on n'est pas d'accord avec Sylvain. Moi, je trouve que c'est un morceau très connu des Beatles. Certes, sorti au départ en face B de Paperback Writer, mais relié à l'album Revolver. Hein, c'était les sessions de Revolver. Et c'était aussi les débuts des Beatles psychédéliques.
Oui, enfin, il figure parmi peut-être les 100 morceaux les plus connus des Beatles, mais à la 83e position, excuse-moi, mais faut pas exagérer, quoi.
Repris par Dan Arbras sur son album Earthslayment en 1979.
Eh bien, puisqu'on parle des Beatles, une petite rubrique.
Oui, une petite rubrique.
Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day.
Digging by Georgie Wooden. And now we'd like to do Are the Angels Come.
La rubrique Digging, donc. Alors effectivement, je me suis un peu embrouillé la semaine dernière. C'est avec cette histoire du Club de 27, là, tu sais. L'émission Digging, en fait, ne s'est pas arrêtée en 2017, évidemment, plutôt en 2020. Février, je crois, 2020. Vérifie sur le blog, mais je crois que c'est ça. Elle avait commencé, fin 89, début 90, je pense. Début 90 sur Éphémère, 30 ans. C'est le fanzine Digit qui, lui, a commencé en 93 et qui s'est terminé aussi en 2020 et qui donc fait partie du Club des 27. Bref, cette rubrique, c'est pour rendre hommage à Gilda et à l'émission Digit. Et on s'écoutait un groupe qu'on passait quand même assez régulièrement, mais qui en plus a un lien avec la BD Underground dont je vous parle depuis la semaine dernière, puisque l'illustrateur et dessinateur Nicolas Moog a collaboré en tout cas avec The Verdons, le groupe qu'on va s'écouter. Enfin, je ne sais pas comment il faut le prononcer. The Verdons, c'est Monsieur Verdun et Madame Verdun, et occasionnellement Nicolas Moog qui joue avec eux, qui a collaboré à certains disques et qui coécrit ici, là, par exemple, tous les morceaux de ce 25 cm qui est paru. Alors j'ai mis la discographie des Verdun sur notre cerveau annexe là, tu pourras vérifier la date parce que moi je me rappelle plus et je la vois pas sur le disque. C'était le 25 cm Nos épaules. Donc la date est sur l'écran de ton cerveau annexe là-haut là. Bon bref, donc c'était ça devait être sur Kiss Mayas qui était leur label fétiche, on va dire. Ils continuent plus ou moins, les Everdons. Enfin, j'ai vu des références, en tout cas, qui datent de ces dernières années.
2012, en tout petit caractère.
2012, c'est... d'accord. Et donc, on va écouter un morceau coécrit par Nicolas Moog, qui a collaboré aussi à cette BD Underground. Le morceau s'appelle Les Briseurs de Grève. Et les Verdun, c'était un peu dans cette vague de néo-folk country, minimaliste, un peu barré, un peu lunaire. Avec du banjo, un peu, tu sais, comment il s'appelait cet allemand là
Bob.
Alors, Diem Bob, c'était un groupe basé en Allemagne, ouais, qui faisait aussi du revival, Cajun, Roots, Blues, Garage, etc. Mais je pensais à Dead Horse Experiment. Mm. Tu vois ce mec là qui jouait du banjo, puis qui avait une espèce de piano, enfin d'orgue avec lequel il jouait avec les pieds, un truc très arbi. Donc il y a eu une petite série de groupes comme ça là, qui faisaient une espèce de revival folk blues country très minimaliste et très barré et qu'on aimait beaucoup à Digit. Donc The Verdons, le morceau Les Briseurs de Grève en 2012.
Thank you.
Les briseurs de grève, donc par Viverdance.
Voilà, en 2012, sur le 25 cm, nos épaules.
Eh bien, on va s'écouter un disque sorti en 2020, mais c'était des bandes enregistrées en 1970 par des gens de l'Indiana qui avaient formé un groupe qui s'appelait Ice, la glace. Et ma foi, c'était du hard rock primitif, pas trop agressif, hein, mais sympathique, qui a été réédité par Riding Easy, bien sûr, les gens qui font un Cerebral Acid. On va s'écouter un morceau qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, 3 O'Clock. Alors, où est-ce qu'ils sont ces sympathiques garçons ?
She walked on by and turned my way. She stared at me and started to say, I'd like to be with you in your aftermath. I'll take your hand and one by one we'll walk away unto the sun. She turned towards me and said,
Donc c'était Ice.
Eh bien, on revient une dernière fois sur Meryl Funkhauser, une dernière fois pour ce soir en tout cas, avec donc après la fin de Mou, Jeff Cotton était reparti, donc il a abandonné la musique, mais lui il est resté sur à Hawaï encore quelques temps sur l'île de Maui et a sorti un album solo paru en 76. Il avait enregistré des tas de chansons, il y en a beaucoup qui ne sont jamais sorties, mais il a quand même réussi à sortir un disque avec certains de ses complices qui étaient restés là et surtout sa copine Mary Lee qui jouait du violon. Donc un peu de violon sur cet album. Sinon, c'est de la musique assez planante, un peu éthérée, très agréable, mais disons que l'album entier là aussi, bon, ça peut être un peu lassant, mais quand on isole quelques morceaux, c'est plutôt. Agréable, on va dire, et puis magnifiquement joué. Il avait une très jolie voix aussi, le Meryl Funkhauser. On va s'écouter un morceau qui n'est pas sur l'album, il est sorti en bonus track sur des rééditions, mais enregistré là-bas. Et il a un côté un peu psychédélique, là, celui-là. Ça s'appelle Calling from a Star. C'est donc Meryl Funkhauser en solo en 76.
Totalement tapis magique.
Ah, à fond, ouais. Je crois qu'ils avaient acheté une plantation de bananes ou je ne sais quoi là-bas.
Bananes.
Ils vivaient en bananes, mangue, non, qu'est-ce que ça pourrait
ananas,
être ananas, je ne sais plus.
Du côté d'Hawaï, c'est plutôt de l'ananas qu'on
voilà.
fait.
Mais je pense qu'ils faisaient pousser d'autres plantes aussi. Hein. C'était Meryl Funkhauser, donc son album solo, The Maui Album, en 76. Enfin, c'était un bonus track, on va dire.
Ouais. Ok, ok. Eh bien, écoute, on va peut-être devoir rêver les auditeurs, hein. Avec le jingle de la mort qui tue.
Ça. Les sœurs Gouedec, on réveille. Faudrait que je me mette ça en sonnerie de téléphone, j'entendrai mieux. Les...
Ah, tu manquerais plus l'appel. Très vite.
On veut c'est du rock, celui du lait, de vos produits.
Bien, et bien ce soir on va passer Maurice Dulac et Marianne Mille. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la musique traditionnelle? Vous me direz pas grand chose. Mais ils ont. Donc c'était deux chanteurs de chansons françaises du début des années 70 qui ont connu un tube avec « Dis à ton fils qu'il doit rentrer ». Et c'était représentatif de cette période de leur œuvre, si on peut dire, quand ils étaient à deux, en duo en tout cas, qui était très marqué par une ambiance folklore sud-américain. Je te ferai remarquer que pour moi, il est 4h du matin. J'expliquerai ça aux auditeurs un autre jour. Là, j'ai pas l'énergie. On va s'écouter Maurice Dulac et Marianne Mille avec un morceau qui n'était pas encore leur tube, mais qui avait déjà la même ambiance. Il s'appelait Libertad. Et il est sorti en 70, je crois.
Il suffit de trois chevaux, d'une machette, une faux, pour être guerriero.
Il ne suffit pas de rêver quand tu ne peux t'acheter le seul mot de liberté.
Mais rêves sans grenades, ils sont barricades. Alors, Libertad.
Brûle de puits, taille la pierre.
Pierre, fusil, plus de misère.
Regarde-moi, pense à nous deux.
Plus je te vois et plus je veux. Libertad.
C'était donc Maurice Dulac et Marianne Mille, accompagnés par Los Chacos, quand même, il faut le dire. Hein. Libertad. Eh bien, les bébés dinosaures sont arrivés plus qu'au bout de leur temps imparti. On vous rappelle qu'on est sur Canal Sud 92.2 MHz et partout dans le monde www.canalsud.net. Magnifique site sur lequel vous pouvez aussi retrouver les émissions passées sous forme de MP3. Et vous pouvez aussi retrouver ça en allant sur la page Facebook des Bébés Dinosaures, mais c'est moins commode. Et vous pouvez nous écouter en rediffusion les lundis de 15h30 à 17h. Mais pour le direct, qui vaut quand même mieux, c'est dimanche de 21h30 à 23h toutes les semaines. Bon, et puis voilà, puis il y a un jingle de fin, on va finir par se le passer, quand même.
Come back. I want him to come back.